We get it almost every night when that moon is big and bright. It's a supernatural tonight. Everybody's dancing in the moonlight. Bonjour et bienvenue dans la nouvelle saison d'Un Livre, Un Film. Nous sommes très heureux de nous retrouver, Olivier.
Oui, bien sûr, Cathy. Hein,
ah, et là, puis Sylvain à la technique.
Salut.
Donc, pour cette rentrée que l'on a envie de prolonger avec le beau temps, un peu la fantaisie, la fraîcheur, etc., etc., la poésie.
Le côté pink, un petit peu comme ça.
Le côté pink aussi. Nous avons décidé, donc au commun accord, de vous parler de La Page Blanche.
Qui n'est pas pink, donc, pour commencer, mais bon.
Pourquoi ? Eh ben non, la page, elle est blanche, elle n'est pas pink, oui, d'accord. Et de vous parler de cette, de ce roman graphique ou de cette bande dessinée, et également du film qui a été réalisé par Muriel Magellan et qui est sorti le 31 août.
C'est ça, tandis que la BD, elle, est sortie en 2012. Elle est l'œuvre de Monsieur Boulet, scénariste. Et de Pénélope Bagieux, qui publie donc La Page Blanche chez Delcourt Collection Mirage, la bien nommée, en ce qui concerne justement cette histoire de La Page Blanche. Histoire que tu as, et bande dessinée que tu as, je crois, particulièrement appréciée, peut-être plus que moi, qui ne suis pas franchement amateur du genre. Bien que je veuille bien me convertir.
Moi, j'ai bien aimé, effectivement. Alors, pour juste, peut-être, on a une émission qui s'appelle Un Livre, Un Film, où on parle effectivement des adaptations.
Ah, ça s'appelle Un Livre, Un Film.
Eh oui, tu te souviens.
Ça me revient. L'été a été chaud.
C'est
les circuits qui ont fondu, moi.
Ouais, les 40 degrés ouais. À l'ombre, oui, c'est ça. C'était un peu dur. Et là, en fait, on avait un peu envie de vous parler de cette œuvre et de les dissocier en réalité, parce que on a déjà dit qu'il y a des adaptations très libres. Voilà, vague d'œuvres.
On a eu aussi des adaptations
très fidèles,
étonnamment fidèles.
Effectivement. Même, ouais. Et c'est vrai que là, on avait un petit peu envie de les dissocier, ouais. Mais bien sûr de vous inciter à les découvrir tous les deux. Mais c'est vrai que, voilà, quand on a vu le film, alors il y a aussi cette différence quand on a lu le livre, qu'on va voir le film, qu'on fait l'inverse. Bon, et des effets, il y a des effets secondaires différents.
Des effets de glissement. En quelque sorte, un peu particulier. Oui.
Et c'est vrai que là, eh bien, une fois qu'on a vu le film et qu'on découvre le roman graphique, on peut rester un petit peu sur sa fin, dirons-nous. Mais j'ai beaucoup aimé le dessin de Pénélope Bagieux, qui, elle, est chouette, en fait, en tout cas, dans le trait, dans la précision, ou moins par moment, dans les couleurs, dans le rythme qu'il peut y avoir aussi entre les vignettes. Et moi, j'ai bien aimé ça. Et puis l'humour, énormément d'humour, évidemment.
Elle n'est pas tout à fait inconnue, cette... Pénélope Bagieux, parce qu'elle avait commencé par un blog qui s'intitulait Ma vie est tout à fait fascinante. C'était déjà l'histoire d'une trentenaire, elle-même un peu. Puis elle a poursuivi avec Joséphine, dont un opus au moins a été également adapté, réalisé au cinéma. Oui, Joséphine de
Agnès Obadia.
Absolument, Agnès Obadia. Et avec Marie-Lou Berry en particulier, encore une histoire comme ça de trentenaire. On est dans un monde de jeunes femmes qui se cherchent un petit peu. Et effectivement, là, vu l'idée centrale de la BD et du film, il y a toute opportunité d'aller se chercher. Tu nous expliques ?
Ah oui. Alors, quelle est l'histoire de La Page Blanche ? Eh bien, il se trouve que le personnage central, qui se prénomme Héloïse, se retrouve assise seule sur un banc et elle ne se souvient absolument de rien, ni de qui elle est, ni de ce qui s'est passé, ni ce qu'elle fait sur ce banc. Et elle se lance un peu dans une enquête. qui va avec plein de rebondissements, hein, on va dire, pour découvrir qui elle est. Et tu nous développeras tout à l'heure la différence qu'il y a entre tout les deux œuvres, d'ailleurs, ou tout de suite, foulée, comme tu veux.
On verra. On va faire.
Si cette amnésie permettrait de trouver qui elle est, mais, et si elle peut réinventer sa vie, et comment le traitement, finalement, est assez différent entre, entre la BD et le film.
Oui, je crois que pour comprendre ça, c'est pas inutile de se pencher deux minutes sur la question de l'amnésie. C'est un problème qui intéresse évidemment beaucoup les médecins, parce que oublier, ça pose un certain nombre de problèmes de toute évidence. Et puis ça intéresse beaucoup les psychologues en général et les philosophes, parce que la mémoire est avec, traditionnellement, avec la volonté et l'intelligence, les trois facultés principales de l'esprit humain. Et donc effectivement, une défaillance à ce point-là de la mémoire, ça pose un certain nombre de questions. Donc les psychologues et les psychiatres distinguent l'amnésie par laquelle on se souvient pas du passé, de celle avec laquelle on imprime plus ce qui vient. Hein, donc deux amnésies. Ici, évidemment, elle ne se souvient pas de son passé. Et son amnésie est totale. Alors là, déjà, il y a une petite précision à apporter, c'est-à-dire les médecins ne connaissent pas d'amnésie aussi totale que cela. Les amnésies sont liées soit à des lésions anatomo-physiologiques, soit à des problèmes plus purement psychologiques, mais en général, elles sont partielles et probablement partiales aussi, ces amnésies. C'est à tel point, l'amnésie là est tellement complète que les médecins ont été amenés à parler d'amnésie de film, justement. Et effectivement, j'étais gratté tout bêtement hein, sur Wikipédia, j'ai dénombré 91 films qui portent ou se servent de la question de l'amnésie. Ici, donc, amnésie complète. Alors, pas amnésie de ses savoirs et savoir-faire incorporés. Hein. Elle dit qu'elle se souvient très bien des livres, qu'elle se souvient très bien des films, qu'elle se souvient très bien du métro, ce qui fait d'Héloïse une personne tout à fait utile pour un livre, un film, si on se déplaçait à Paris. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pour sa vie quotidienne, ça ne fait pas assez. Voilà. Et donc, ça pose les problèmes fondamentaux sur lesquels on va certainement revenir. Problème d'identité, qui suis-je? Et puis, rapidement, problème de relation, parce que qui est-ce que je connais? Comment je connais la personne que je croise? On se connaît très intimement ou c'est juste un collègue de travail, enfin, etc. Hein, dans le cas de l'amnésie totale, il faut tout refaire, quoi, hein, effectivement. Donc, un rapport au réel qui est effectivement parfaitement troublé d'une certaine manière.
Et oui, et le fait d'entrer chez elle, ça ne l'aide pas forcément. C'est ça qui est... marrant, c'est qu'elle pourrait, en voyant son univers, l'univers qu'elle a construit, c'est vrai qu'un appartement, on le fait quand même, en général, un petit peu à son image, enfin, des couleurs qu'on aime, des photos de personnes qu'on apprécie, on y met quand même beaucoup de soi et sa propre identité.
Mais justement, c'est ce qui a disparu. Et ce que les psychiatres et les médecins, en général, notent dans les amnésies, en particulier les amnésies partielles, ce sont des phénomènes de flashback. C'est-à-dire, tout à coup, le patient... il lui revient, il a des réminiscences, il lui revient telle scène, son rapport avec telle personne, etc. À partir de quoi, évidemment, le patient peut essayer de reconstruire. Là, Héloïse, effectivement, elle rentre chez elle et elle reconnaît rien, elle reconnaît même pas le nom de son chat, elle reconnaît même pas... Enfin voilà, c'est assez, évidemment... dramatique, ça pose un véritable problème.
Alors, ce qui est amusant à la fois dans la BD et dans le film, c'est son imaginaire quand même. C'est que on sent que c'est une femme qui a beaucoup d'imagination et qui anticipe ce qui va se passer. Par exemple, quand elle arrive à son appartement, dans les deux œuvres. On la voit imaginer ce qu'il y a derrière la porte. Parce qu'effectivement, ne sachant pas qui elle est et quel est son environnement et quels sont les gens qu'elle connaît, elle se dit bah, peut-être que derrière la porte, il va y avoir un mari, un enfant, des terroristes, un tatou. Et ça,
c'est
très drôle.
Beaucoup d'imagination dans la bande dessinée.
Elle a beaucoup plus d'imagination dans la bande dessinée. C'est vrai que dans le film, ils ont repris quelques trucs, mais il y a beaucoup plus de choses, effectivement.
Et ça participe de l'option future, mais ça, on en parlera en seconde partie. En tout cas, effectivement, elle sait encore ouvrir une porte, mais elle ne sait pas ce qu'elle va trouver derrière.
C'est vrai que si on se met à sa place, c'est quelque chose d'assez flippant de se dire bah, qui je vais rencontrer derrière et est-ce que je vais reconnaître ces personnes ou... Et là, en l'occurrence, il y a un chat dont elle ne sait pas encore le prénom.
Exactement, mais on ne va pas le dire.
Non.
En attendant, on va justement se poser la question de cette dimension tout à fait cinématographique de l'amnésie, puisque là, il y a vraiment du dans le champ et du hors champ. Musique.
Moteur. L'action se déroule dans ta ville, fut d'hélicoptère ou du haut d'un building. Et puis la caméra zoom avant jusqu'à ton appartement. Tel est le nom du film. Comme il est dit dans le scénario, gros plan de toi dans ton berceau. Comme il est précisé dans le script, lumière tamisée, flou artistique. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Sur la bande-son, une cloche qui sonne, fondue enchaînée sur la cour d'une école. Un lièvre, une tortue, trois mousquetaires, et plus tard, les fleurs du mal de Charles Baudelaire. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Autre séquence, autre scène, chant contre chant, gros plan sur elle. T'as raison, y'a que l'amour qui vaille la peine. Demande à l'éclairagiste qui il était. Dou 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 dou, ainsi soit-il. Oh, oh, oh. Tel est le nom du film. Flashback, tu regardes en arrière toutes les choses que t'as pas pu faire. Disparaître dans le rétroviseur, mais personne n'a jamais arrêté le projecteur. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Rappeling sur un corbillard qui passe sans faire de bruit, sans laisser de traces. Un bébé qui pleure dans la maison d'en face. Quelqu'un s'en va, un autre prend sa place. Ainsi soit-il. Tel est le nom du film. Alors la caméra zoom arrière et tu remontes dans l'hélicoptère.
Voilà.
Qu'est-ce que ça fait du bien de réécouter Louis Chédid.
Oh ouais, puis moi j'adore les hélicoptères. D'ailleurs là, je me suis demandé, il décolle ou il atterrit? Parce que j'ai entendu là un petit séjour à l'hôpital, j'ai entendu les deux bruits du d'hélicoptère du SAMU. Alors, je me penchais, je disais tiens, il décolle ou il arrive.
Mm-hmm.
J'ai un nouveau pensionnaire qui se pointe ou il y en a un que on n'a pas réussi à récupérer.
Oh, c'est glauque. Bon, alors. Nous avions aussi envie de parler, Olivier, puisque il me semble que tu es prof de philo.
Oui, j'y étais, oui. Hein? Ah, beaucoup.
Que au-delà de cette question de l'existence, de l'identité, ouais. Y a-t-il autre chose?
Oui, je crois que tous nos auditeurs, beaucoup de nos auditeurs, n'auront pas échappé durant leur parcours dans l'éducation nationale à Platon, qui est plus très rapide, mais qui rattrape quand même beaucoup d'élèves encore.
En tout cas, c'est un des plus fascinants qu'on découvre en philo.
Moi, j'ai rencontré des gens qui avaient un âge canonique et qui se souvenaient encore de leur cours de philo sur la fameuse allégorie de la caverne de Platon.
Clair. Mais j'avoue que j'en fais partie aussi, même si j'ai pas un âge canonique.
Pas aussi canonique que le mien, mais enfin respectable tout de même. Alors,
c'est tristement la vérité.
Mais j'aime la vérité comme prof de philo obligé. Hein. Alors, c'est au début du livre 7 de la République que Platon propose Socrate propose à ses interlocuteurs une image, une allégorie. Donc, on y voit des prisonniers enfermé, le visage tourné vers la paroi de la caverne dans laquelle ils sont donc enfermés, et ils ne voient défiler sur la paroi de cette caverne que des ombres. Mais ils tiennent ces ombres pour la réalité même. Et le travail du philosophe, et son initiation, c'est que le philosophe, c'est celui qui un jour s'est détaché de cette prison, s'est détourné des ombres, et remonter à l'air libre pour voir la vraie réalité, le réel en lui-même. Donc. Et ça, c'est quand les interlocuteurs de Socrate disent à Socrate « Mais c'est très étrange ta présentation, c'est qui ?» Et Socrate répond « Mais c'est nous ». C'est-à-dire l'idée métaphysiquement de Platon, c'est que nous sommes ces prisonniers, nous avons en permanence affaire à des ombres. Notre imagination, d'ailleurs, tu parlais d'imagination avant Louis Chédid, ainsi soit-il, tu parlais d'imagination, les prisonniers font preuve d'énormément d'imagination. Ils discutent longuement entre eux de ce que sont ces ombres, etc. Mais ils ne parlent finalement que d'ombres. Et ce que propose le philosophe, c'est de se détourner des ombres et des images pour aller aux réalités elles-mêmes. Et ça, c'est la métaphysique d'Aristote. Mais derrière, il y a une véritable spiritualité, puisque Platon croit en la réincarnation. Et donc, il est persuadé que notre âme, à notre mort, va contempler la réalité vraie, mais que réincorporée dans une réincarnation, elle oublie tout ce qu'elle a vu. Donc l'amnésie et la réminiscence structurent non seulement l'existence des personnes, mais leur être profond au sens métaphysique et spirituel. On a donc une mission qui s'offre à nous, qui est de nous détourner des images et des ombres, des écrans du cinéma, pour sortir en ville et proclamer la vérité aux gens ignorants. Vous comprenez ? Voilà.
Très bien. Merci pour cette explication.
C'est tout ça qu'effectivement on voit là. Enfin, moi, je vois ça parce que c'est des formations professionnelles. Et puis, on a eu l'occasion, je sais que c'est un film que tu n'as pas très goûté, mais De l'autre côté du ciel reprend un peu ce thème de gens qui sont enfermés sous les nuages. Et parmi ces gens, quelques-uns...
Oui, à qui qu'on manipule et à qui on fait croire une certaine vérité. Non,
oui,
mais
oui, tout à fait. Oui.
Encore une fois, je par rapport à ce film de l'autre côté.
Je sais que c'est pas le problème pour toi.
C'est pas c'est pas le problème de fond en tout cas par rapport au traitement du sujet. Enfin, c'est plus le graphisme, les personnages, surtout le vocabulaire utilisé pour des enfants soi-disant qui auraient 6 ans. À qui on parle d'hérétique et de banque centrale.
Si les enfants étaient mieux élevés,
je trouve que c'est un peu compliqué pour un enfant de 6 ans voilà, là, c'est pas du tout adapté pour moi.
Non plus un film pour les enfants de 6 ans. Toutefois, c'est intéressant ce que tu soulignes là, sur la dimension politique et sociale. C'est-à-dire qu'effectivement, les élites en général, qu'elles appellent appartiennent à l'un des quatre pouvoirs fondamentaux de la société ou au pouvoir économique, les élites ont évidemment intérêt à nous maintenir au milieu des ombres et des images, en règle générale. Et c'est aussi une des vocations du philosophe de demander à ses concitoyens de ne pas se contenter de ces images que nous fournissent les médias, les politiques et donc les patrons d'industrie, par exemple, qui sont des grands fournisseurs d'images fausses du réel.
Oui, mais ça, c'est un sujet qui est très aussi exploité au cinéma et ou qu'il a été et qu'il le sera encore parce que c'est une réalité. On le vit plus ou moins.
Sujet qui est, à mon avis, en filigrane dans la page blanche, peut-être moins la BD, mais en tous les cas, le film, où il est quand même question de sa vie sociale, de la place qu'on veut occuper dans cette vie sociale, sa place professionnelle, quel réseau d'amitié on va créer. Et pourquoi ? Évidemment, tout ça est remis en quelque sorte. Elle a cliqué sur cancel, elle a viré tout ça. Et effectivement, il faut qu'elle retrouve ses relations. Et elle se rend compte que des relations qui apparemment ont été ses relations passées ne la satisfont plus du tout, quoi. Enfin, ou très peu.
Ouais. Alors, pour ne pas révéler la fin de chacune des œuvres, mais c'est vrai que le traitement, alors si le constat de base, cette Héloïse est amnésique et elle cherche à comprendre, enfin à savoir qui elle est, pas forcément à comprendre, mais savoir qui elle est. Effectivement, il y a deux options qui sont différentes et qui sont traitées de manière très très différente dans la BD, où finalement on reste beaucoup autour d'Héloïse et d'une collègue de travail. Et puis bon, il y a aussi Fred qui est par là, mais qui n'est pas forcément la même personne.
Quand même, ouais.
Mais très, ouais, on est quand même très très concentré sur Héloïse, alors que dans le film, effectivement, est développé un scénario un peu plus fourni.
Ouais, ouais. Ce qui justifie ce que tu disais en début d'émission, à savoir que on est quand même très tenté de dissocier. Le livre du film, en l'occurrence.
Mais il faut, parce que sinon, on a une sorte de frustration qui se...
Et de parasitage entre les deux, ouais, complètement.
Qui se pose là et dont on n'a pas envie. Ouais. Et c'est pour ça que...
On peut le dire en deux mots. Grossièrement, je ne pense pas qu'on divulgue énormément de choses en disant que dans la BD, on a un privilège accordé à l'imaginaire. Un privilège accordé à... Enfin, il est quand même supposé que ce qui lui arrive, l'amnésie, c'est finalement plutôt pas mal. Ça va lui permettre comme ça de partir, de quitter son milieu, etc. Et puis, on a un parti pris un peu différent qui est de se reconstruire, de se retrouver soi-même et puis de refaire du lien plus satisfaisant. Je dirais qu'il y a une option là qui est peut-être une option qui est plus réaliste. Ou...
Oui, et puis peut-être d'être vraiment une autre quelque part. Parce que j'ai un peu l'impression que dans la bande dessinée, il va y avoir... effectivement une page blanche avec une nouvelle écriture, une nouvelle histoire, mais qui va peut-être être finalement ce qu'elle est déjà, c'est-à-dire elle va peut-être se retrouver.
Il y a toutes les chances que l'imagination ne lui propose pas autre chose qu'elle a toujours proposé.
Exactement,
quoi.
Alors que dans le film, on sent vraiment un personnage, une dynamique différente, un personnage qui évolue, qui se rend compte que... Ben, en fait, les trucs qui la faisaient rire ou les gens qu'elle côtoyait, c'était pas forcément ce qu'elle ressentait là, une fois son amnésie posée. Elle avait pas envie de ça. D'ailleurs, elle se rapproche d'une personne avec qui elle n'échangeait absolument pas dans le cadre de son travail et qui va subitement être sa confidente.
Et sa
bouée de sauvetage. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est cette page blanche, comment elle s'écrit, et on voit bien qu'elle s'écrit très différemment.
Avec, on peut le supposer, vu ce qu'on a dit sur le plan donc existentiel, métaphysique, spirituel, on pourrait rajouter moral ici. C'est vrai que du point de vue de son attitude morale, faire fi finalement de cet oubli, ou au contraire essayer de recoller au réel, quoi, et puis d'en faire quelque chose, il y a deux options éthiques qui sont quand même assez divergente d'une certaine manière, quoi. Hein, on aurait un goût du réalisme qui serait un peu moral, d'une certaine manière, et puis un goût de l'imaginaire et de la page blanche qui serait plutôt, je dirais pas immoral, attention, mais un petit peu amoral, quoi. C'est-à-dire, bon, on va bien voir hein, ce que ça va donner, quoi.
Ouais. Alors, on n'a pas parlé des inspirations de la réalisatrice Muriel Magellan. On n'a plus trop le temps, mais c'est une écrivaine et qui est scénariste et qui a beaucoup travaillé avec Jean-Pierre Améris et qui s'est inspirée. Alors, on va quand même citer les films. Il y a Française A et puis Be Happy, notamment, parce que ce sont deux films qui parlent de personnages de trentenaires qui sont d'une fraîcheur, d'une fantaisie, d'une extravagance et d'une liberté. Voilà, les films sont vraiment chouettes à regarder. Toi, tu citais aussi un film qui est actuellement à l'affiche qui s'appelle Revoir Paris, oui. Où il y a aussi un traitement sur l'amnésie suite à un choc.
Un film absolument merveilleux. Et je tenais à citer aussi un réalisateur que j'aime beaucoup, c'est Woody Allen.
Oui.
Avec Alice.
Alice.
Je revoyais, parce que j'avais un peu oublié, j'ai revu le pitch, et Alice, c'est une très belle inspiration pour la page blanche.
Pour la page blanche. Mmh. Donc nous vous incitons fortement à découvrir la bande dessinée et aller voir le film en salle actuellement, notamment au Navire et dans d'autres, évidemment, cinémas. C'est un petit régal. Moi, j'ai passé vraiment pris un grand plaisir à regarder ce film. Merci, Olivier.
Merci, Cathy.
Merci
Sylvain.
Et à la prochaine.
We get it almost every night when there are